recherche Aix. Dans sa quête culturelle de la ville, la radio aborde la question de la musique, ou plutôt de la place des musiques actuelles dans la ville Cézanne. Alors que Aix-en-Provence se dote de grands équipements culturels, la Cité du Livre, le musée Granet, tout récemment vient d'ouvrir le Pavillon Noir, centre national chorégraphique dirigé par Angelin Prejlocage, et en face, encore en construction, le Grand Théâtre de Provence qui ouvrira ses portes à l'été 2007. Face à ces nouveaux équipements, qu'en est-il de l'offre musicale dédiée bien sûr aux étudiants, aux moins de 30 ans, qui représentent 40% de la population aixoise? Et qu'en est-il des possibilités d'émergence, de pratiques musicales pour les groupes, les musiciens qui souhaitent se développer dans la ville? Pendant une heure, nous rencontrerons différents acteurs de la vie musicale aixoise, ceux qui, depuis un certain nombre d'années, agissent sur le terrain, que ce soit Pépito de la Fonderie, aujourd'hui transféré dans la salle du Bois de l'Aune, André Molex de la MJC et de l'Espace Musique Actuelle, ou encore Patrick Daragi, dit Garage, de l'association Exki, tous s'accordent à dire qu'à Aix, les musiques actuelles, leur développement, leur diffusion, ne sont pas une priorité dans la politique culturelle de la ville. Et pourtant, la ville compte 50 000 étudiants pour une population de 160 000 personnes. Nous irons donc poser la question aux politiques, à la ville avec Stéphane Salor, délégué à la culture, et à la communauté du Pays d'Aix qui a récupéré un certain nombre de compétences en matière culturelle, dont la gestion des équipements justement. Mais tout n'est pas noir, commençons avec le groupe Musard, Candice et Guillaume reprennent leur histoire.
Sur les écrans, la nature dans les mémoires vives a su résister au temps. Des natures mortes que l'on archive sur des enregistrements, ce qu'il nous reste de la méprise de tous nos actes inconscients. Déchire, arrache ses éléments. Et ceux qui osent encore sortir ne résistent pas longtemps. On s'habitue.
Alors, la genèse du groupe, c'est avec Manu. Nous, on vient des Hautes-Alpes et on est arrivé à Aix pour faire des études. Et en fait, on jouait de la musique, on jouait dans un restaurant deux fois par semaine à Aix, en sous-sol, dans une cave voûtée. C'est là qu'on a rencontré Candice, qui chantait déjà et qui jouait de la guitare. On l'a transformée en bassiste, chanteuse. Après, on a enregistré un premier disque au CECDC et on a rencontré une violoniste qui s'appelle Lucille. Et donc, le groupe est né ici.
Le groupe est né ici, mais ce qu'ils oublient, excuse-moi toujours de dire, c'est qu'en fait, ils avaient déjà fait un groupe de lycéens. Ils ont commencé à l'âge de 13 ans, ils avaient déjà un groupe qui avait fait les classes rock, le printemps des lycées, énormément de choses. Ils sont montés au Cirque d'hiver à Paris. Quoi, ils ne sont pas nés de nulle part, en fait. Le groupe Musard est vraiment né du Conservatoire de musique actuelle, parce qu'on s'est retrouvés sous la formation à trois avec Manu et Bab. Et quoi, Bab, c'est Guillaume. Et c'est de là qu'on a remonté un répertoire et qu'on a vraiment travaillé et qu'on a été, qu'on peut dire qu'on a subi, quoi, vécu un accompagnement de groupe par le Conservatoire de musique actuelle qui nous a aidés dans nos projets.
Alors le Conservatoire des musiques actuelles, est-ce que vous pouvez juste nous en dire deux mots, ce que c'est?
Alors en fait, c'est une structure qui se trouve au Jazz de Bouffant, en fait, pas très loin du Bois de l'Aune. Et c'est une structure annexe du conservatoire. C'est fait juste pour la musique actuelle, c'est-à-dire qu'on peut y aller sans aucun bagage musical, juste en touchant un peu la guitare, sans connaître le solfège. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry Riboulet et qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui accepte beaucoup de monde et qui travaille avec les musiciens qui ont envie de faire de la musique et qui les accompagne. Et nous, il nous a permis déjà d'avoir une salle de répète Et puis en plus de nous donner un petit coup de main au tout début, c'est lui qui nous a fait rencontrer le CDC, c'est grâce à lui qu'on a pu créer des projets avec Musa.
Alors je vais poser une question un petit peu large, mais en tant que musicien, comment vous vivez la ville d'Aix-en-Provence ?
Ben, à la fois, d'un côté, il y a ce conservatoire de musique actuel, donc c'est notre lieu de répète. On a de la chance de rencontrer des gens exceptionnels, bon, comme Thierry Riboulet, ou soutenu, comme on dit, par l'Arcade. Mais après, au niveau concert, c'est pas une ville qui bouge du tout. C'est une ville, pour nous, qui on joue pas là. On s'exporte vachement. Et même, on a l'occasion de jouer dans des manifestations de rue, dans des festivals de quartier, par le conservatoire, mais on joue pas à Aix. Il y a pas de lieu pour, il y a pas de salle pour les groupes comme nous. C'est un peu difficile.
Biomix, ça s'est créé il y a quasiment 10 ans, puisqu'on va fêter 10 ans cette année, enfin en 2007. Donc dans un contexte à Aix qui est très très différent du contexte actuel, c'est-à-dire qu'il y avait quand même à l'époque pas mal de lieux de nuit dans lesquels on pouvait organiser des petites soirées. Il y avait au moins 7-8 endroits qui accueillait différentes soirées, différents petits organisateurs de soirées, dont nous, mais il y en avait beaucoup d'autres. On était sur Aix, on devait être 5-6 comme ça, organiser des soirées hip-hop, reggae, house, techno. Et on a commencé donc à organiser ces soirées-là dans des petits lieux de nuit, dans Aix-en-Provence, jusqu'à ce qu'on trouve rapidement un petit club très kitsch à Aix, aux alentours d'Aix, qui nous a accueillis le jeudi soir et dans lequel on est allé parce qu'on trouvait, on a pu négocier des tarifs vraiment super, super bons quoi, pour l'époque avec le patron du club pour le public, c'est-à-dire que c'était 30 francs l'entrée et du type 20 francs à l'époque le verre d'alcool, quoi, ce qui dans un club est plus qu'hallucinant puisque c'était 70 francs le verre d'alcool, quoi. Ces soirées-là, elles n'étaient vraiment pas pour essayer de gagner de l'argent ou de gagner notre vie avec, parce qu'évidemment, avec 30 francs l'entrée et tout ce qu'on mettait en place autour, il restait pratiquement rien à la fin de la soirée, sauf que c'était souvent de l'argent qu'on mettait de côté. Toutes les petites soirées dans les bars aussi, et puis au fur et à mesure, on s'est structuré jusqu'à ce qu'on monte réellement la structure en se salariant, en montant ensuite des projets assez rapidement. Donc en 2000, on a eu deux postes salariés. 2001, un poste à DAC, donc on a continué à monter nos projets. Et c'est l'époque où on s'est installé dans le ACDC, ce que j'appelle le ACDC, c'est le CECDC, à Aix. Et à ce moment-là, on nous a demandé de si on avait une idée pour monter un projet autour des arts numériques et qui soit en résonance avec un lieu important d'Aix. Et nous, bon, c'est exactement ce qu'on faisait, puisqu'on organisait des soirées de partout dans la région, à chaque fois en choisissant des lieux atypiques comme des châteaux, des bateaux. Nous, évidemment, on a sauté sur l'occasion parce que ça faisait des années qu'on regardait la Fondation Mazzarelli avec envie. Et on avait même rêvé avec Tom Panton, qui à l'époque était à Aix en tant qu'étudiant et jouait avec nous dans les soirées sous le nom de Tom Hippie. Et il faisait un mémoire, lui, un mémoire sur la Fondation Vasarely. Quand il est reparti en Angleterre, il a commencé à travailler pour Warp. Et on gardait le contact, évidemment. On le faisait venir, on se voyait assez souvent. Et bon, on l'a de suite évidemment appelé en lui disant « Écoute, là, il semblerait qu'on ait les cartes en main pour pouvoir organiser cette fameuse soirée dans la fondation, et ça tombait sous le sens que le faire avec Warp, c'était parfait, quoi.
Donc ça, c'était les premiers territoires électroniques, ouais, organisés par Biomix. Alors, pour reprendre un peu les activités de la fonderie, c'est vrai que le Café Musique était très dynamique, je veux dire, en termes de diffusion de musique actuelle. On a peut-être plus de mal à retrouver cette visibilité-là au niveau des musiques actuelles dans la salle du Bois de l'Aune aujourd'hui. Enfin, en tout cas, depuis Marseille, c'est un peu plus flou.
Oui, tout à fait, non, c'est sûr, c'est une donnée réelle. Alors, elle est liée à plusieurs paramètres. C'est vrai que quand on avait notre salle au 14 cours Saint-Louis, qui était une petite salle, 350 places maximum, jauge pleine, qu'on avait à cette époque le label Café Musique, un minimum de financement, c'était beaucoup plus facile de programmer, on va dire. C'était beaucoup plus facile de programmer, déjà parce qu'il y avait des coûts beaucoup moindres sur la salle du 14 cours Saint-Louis, plutôt que dans cette grande salle ici, où de suite, tu as tout un tas de paramètres à prendre en compte, qui augmente largement les coûts. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand on est arrivé dans cette salle, elle n'avait plus d'identité et elle n'avait aussi plus de réalité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu n'avais pas le moindre équipement, il y avait tout un tas de choses à faire, Et ce problème d'identité, et de fréquentation du public, donc du coup, tu vois, par conséquent. Et donc, on s'est retrouvé avec une salle où une production la production d'un concert coûte beaucoup plus cher que ce que ça nous coûtait avant. Et d'autre part, où amener le public, c'est beaucoup plus compliqué que là où on était avant. Donc de toute façon, nous, on savait qu'il y aurait un temps d'adaptation. Là, c'était une salle qui a été construite à la base, comme on construisait les salles avant, c'est-à-dire dans un esprit sport et culture. C'est une salle qui est gérée par la communauté du Pays d'Aix, donc qui était à la ville et qui a été transférée à la communauté du Pays d'Aix, comme la plupart des équipements culturels sur Aix. Donc avec un temps d'adaptation, de transition, le temps que le service se mette en place, que le machin se mette en route, que le truc se mette en fonction, etc. quoi. Donc nous, on est un peu ballottés là-dedans, d'une part. D'autre part, si on savait qu'il faudrait un temps pour en faire une salle de diffusion, concert, etc. On savait aussi qu'il faudrait des moyens là-dessus. Et par le fait, un, des coûts de la salle, deux, de la polyvalence des missions, on va dire, c'est-à-dire accueil associatif, programmation culturelle, mise aux normes, etc., etc., on s'est retrouvé dans l'impossibilité de programmer autant que ce qu'on aimerait programmer. D'autant plus qu'effectivement, à la fonderie, tu pouvais programmer des groupes alternatifs ou des groupes qui étaient en développement ou des groupes qui n'étaient pas connus dans la région avec 150 ou 200 places. Tu arrivais à négocier des choses. Le public venait aussi depuis des années par le fait que c'était la fonderie qui disait « Tiens, c'est un endroit sympa, la programmation elle était crédible et compagnie ». À la salle du Bois de Lonne, c'est tout à fait autre chose. Le moindre groupe qui vient ici, il faut qu'on prévoie, mais ça coûte c'est entre 5 et 10 000 euros là, pour ouvrir les portes, quoi,
Nous, on s'est toujours servi des meilleurs côtés de la réputation ou de la vue que les gens ont d'Aix-en-Provence. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une ville super propre, patati patata, donc avec tout ce que ça inclut derrière. Mais en tous les cas, c'est une ville où il y a du brassage, parce que chaque année, il y a quand même 60 000 étudiants qui déboulent pour l'année, dont une grande partie sont étrangers, anglais, allemands, américains, scandinaves, toutes sortes d'étrangers qui viennent là et qui se disent que c'est souvent pour eux une année de parenthèse dans leur vie, donc ils se permettent plein de choses pendant cette année-là. Ils sortent un peu de leurs repères sociaux, parce que souvent ils viennent de milieux aisés, faut pas l'oublier, hein, les étudiants étrangers, la plupart sont de milieux aisés. Et donc ça crée aussi quelque chose de spécial dans la ville. Et on a fait plein de rencontres. Il y a plein de gens comme ça avec qui qu'on a rencontré parce qu'ils étaient à la fac ou à l'Institut étranger ou à l'IEP et avec qui on continue à travailler à l'étranger. On va jouer à Amsterdam, on va jouer un peu de partout grâce à eux. Et donc, pour revenir à la question, on s'est toujours servi des meilleurs côtés de Aix, c'est-à-dire le côté un peu campus, beaucoup de monde sur un périmètre restreint, ce côté qualité de vie où tu sors de chez toi, de suite tu rencontres les gens, au bout de 3 mois tu connais tout le monde. Voilà, ça ce côté-là a des avantages. Après, le rayonnement d'Aix à l'extérieur, c'est vrai qu'il existe, c'est un peu la Provence, mais bon, il a plutôt un rayonnement de tambourinaille et fifrelin que d'un rayonnement autour de la musique. Donc bon, le festival Territoire électronique qu'on a monté dans la Fondation Vasarely, ça correspond effectivement tout à fait aussi, sans le vouloir, hein, ça n'a pas été un désir, c'était un concours de circonstances, mais ça a été quelque chose qui colle à ce que la mairie a envie d'avoir dans sa ville, c'est-à-dire un événement qui soit un peu perle rare, dans une fondation avec des artistes très pointus, racés, avec un public qui vient un peu transposer, le festival d'art lyrique version culture électronique, même si j'exagère un petit peu, mais bon, c'est un peu vu comme ça de la part de la mairie d'Aix-en-Provence. C'est pour ça qu'on garde le soutien de la mairie et des pouvoirs municipaux.
Donc l'association Aix-Ki, par contre, on peut peut-être s'étendre là-dessus, créée en 1989. L'objectif, c'était à l'époque de répondre un peu au désert qu'il y avait en matière de pratiques culturelles jeunes. Force est de constater que presque 20 ans après, c'est toujours la même chose, donc là-dessus, on n'a pas beaucoup avancé, quoi. Mais ceci dit, on a créé un peu des outils quand même. Parmi ces outils, il y a une action qui existe depuis 17 ans maintenant, qui s'appelle Classe Rock, qui est le tremplin musical des Bahuts, et qui, parti d'Aix-en-Provence, petit à petit, a contaminé la moitié du département, puis le département entier, puis deux départements, puis trois départements, jusqu'à couvrir la région. Et depuis 4 ans maintenant, il y a une autre action satellitaire à Classe Rock qui est née, qui s'appelle Classe E-Rock, qui est pour les gens qui sont passés par Classe Rock ou qui n'ont plus l'âge de participer à Classe Rock, puisque Classe Rock, c'est vraiment la première marche, le rock lycéen, collégien, hip-hop, machin, mais moins de 23 ans. Donc on a créé une deuxième action qui s'appelle Classe E-Rock et qui, elle, s'adresse aux groupes en voie de pré-professionnalisation, comme diraient nos amis de la DRAC. Donc nous, résolument, on s'est situé dans ce créneau qui n'en est pas un, qui est celui de, au lieu d'attendre qu'une bagnole crame dans un quartier pour s'en occuper, mais plutôt de rendre compte sur une action toute l'année de tout ce qu'il faut développer comme imagination, énergie, moyens, des merdes, pour avoir un groupe qui répète toute l'année pour monter 3 malheureux morceaux pour se présenter au Class Rock et dont jamais personne ne parle. Voilà. Donc nous, on s'est dit systématiquement, on va travailler sur cette thématique parce que aussi elle n'est pas simplement culturelle et que quelque part, si on continue à exclure la culture du champ social, éducatif, on va finir par faire des beaux outils comme on a eu l'exemple ici à Aix avec le Baron Noir et l'Opéra Comique couvert. Et puis finalement, on s'aperçoit que les mecs, ils finissent par mettre des affiches ou casser les outils ou leur mettre le feu parce qu'en fait, ils ne se sentent pas concernés. Mais c'est normal parce qu'on les rend pas acteurs du truc. Donc nous, on s'est dit que déjà, on allait travailler là-dessus. Donc, de ce fait-là, l'évolution, elle est quand même mitigée. Certes, il y a eu une prise en compte de l'institution de ces thématiques-là, mais avec un train de retard et deux, sur des outils inadaptés.
Allons voir justement du côté des institutions avec Denis Poulain, chargé du service culture de la communauté du Pays d'Aix.
Les gros opérateurs en musique actuelle sont à peu près 3. Après, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Mais je parle d'opérateurs, d'associations qui ont comme objectif le soutien, le développement des musiques actuelles, des jeunes, des groupes émergents, etc. etc. Il y a Exki, que les autres m'excusent, La Fonderie, le Café Musique La Fonderie, et puis l'espace musique actuelle de Prévert, le MJC Prévert. Depuis le début, la communauté a pris en compte, et même avant la création, puisque on a soutenu le Exki sur le tour en Pays d'Aix avant la création de la communauté. Depuis, ce sont des associations que nous suivons de près, que nous soutenons de façon assez large, hein, sur le plan financier. On travaille en permanence avec eux pour, d'une part, les aider à mener leurs actions, que ce soit Class Rock, Tour en Pays d'Aix, Zigzag, etc. On continue à mener la réflexion avec eux sur comment aller plus loin, de quoi a besoin le territoire. On sait très bien qu'on manque de studios de répétition, de lieux dédiés aux musiques actuelles. Là, on est effectivement en permanence dans l'échange avec eux. On n'a pas de solution toute faite, on a besoin de les entendre pour comprendre et après proposer des solutions. On a parlé tout à l'heure du stadium de Vitrolles. Sur le stadium de Vitrolles, il y a une réflexion large qui est menée avec la région qui commence. Hein. Nous avons fait des études propres sur qu'est-ce qu'on peut faire dans cet équipement. Il y a un certain nombre de pistes qui sont ouvertes et une réflexion plus large que débute avec la région et l'État, en particulier le Conseil général. Sur l'utilisation de cet équipement qui reste la plus grande, qui est, même s'il est fermé, la plus grande salle du Pays d'Aix et de son positionnement par rapport aux autres équipements régionaux ou la métropole marseillaise.
Qui serait éventuellement une salle dédiée aux musiques actuelles, de combien de places?
Alors, le stadium, c'est un équipement modulable. Il y a un gradin en gros 2200-2300 places avec la possibilité d'utiliser le parterre, puisque c'est une salle de sport aussi. Hein. À l'origine, ça a été construit pour le sport, avec des utilisations culturelles, il faut le savoir, ne pas l'oublier. Oui. Quelle forme, la question est là, la question c'est quelle forme donner à cet équipement ? Est-ce que ça reste simplement une salle de spectacle telle qu'il est actuellement, telle qu'elle est actuellement ? Ou alors est-ce qu'on va plus loin et on réfléchit pour le transformer, pour qu'il y ait une salle de concert plus modeste avec des espaces dédiés à l'enregistrement, à la répétition, etc. Mmh. Ça, on ne le fera pas seul. On a besoin et de l'État et des autres collectivités locales, déjà pour avoir leur sentiment et leur vision des choses. Et aussi les opérateurs locaux, on associera largement ceux qui font.
Alors, ça serait effectivement une salle intéressante, mais qui n'est pas complètement à Aix, quoi. Donc pourquoi dans la ville, c'est pas possible qu'il y ait une salle dédiée aux musiques actuelles, pas forcément de cette ampleur-là, mais disons une salle moyenne comme le Poste à Galène à Marseille ou le Balthazar, enfin même des petits lieux comme ça qui permettraient à des groupes émergents ici à Aix de pouvoir tout simplement pratiquer, quoi, puisque bon, c'est quand même difficile de pratiquer uniquement dans les bars et d'après ce que j'ai compris, il est même difficile aujourd'hui de jouer dans un bar à Aix-en-Provence. Donc comment répondre à cette problématique de la pratique musicale d'un groupe émergent dans la ville ?
Nous avons confié la gestion de la salle du Bois de l'Aune à une association qui s'appelle Café Musique La Fonderie, avec cette mission. Dans une convention, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'il y a d'autres aspects. C'est une salle de proximité que les Aixois connaissent depuis longtemps. On a signé avec eux une convention qui dit clairement que la priorité est donnée à leur projet artistique pour l'utilisation de cette salle. Donc ils le font très bien, ça attire du public de toute la région. Évidemment, ça n'est pas parfait, mais en tous les cas, il y a eu une volonté claire de confier à cet asso qui a une expérience longue dans le secteur, de montrer ce qu'ils savent faire et d'accueillir des groupes émergents ou d'autres, hein, évidemment, dans cette salle. On les soutient aussi très largement sur Zigzag, c'est un festival assez connu. Donc voilà, on avance par petits pas. On sait très bien que les choses se construisent doucement, marche après marche. Bon, c'est peut-être un lieu commun de le dire, mais enfin, je pense qu'on est, on n'a pas oublié du tout, contrairement à ce que, même si c'est pas parfait, on n'a pas oublié. Alors la ville, les cafés aixois, ça faut nous poser la question. Alphonse, le patron de la restauration aixoise. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Quoi.
Bien, bonjour, ben, bon, je suis Stéphane Sellor, je suis le deuxième adjoint au maire de la ville d'Aix. Je suis le délégué aux affaires culturelles, à la vie économique et à l'emploi. Et je suis également vice-président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, où j'ai en charge là, par contre, l'ensemble des affaires économiques. Oui, la demande étudiante, elle est un peu particulière, parce que c'est vrai qu'à Aix, on a la chance d'avoir beaucoup de lieux d'animation privés, beaucoup de pubs, de musique la nuit, etc., qui posent d'autres problèmes, mais qui sont aussi pour nous, il faut le dire, hein, il faut être très lucide sur ça, une source de richesse, d'animation, qui font que Aix est une ville qui vit, qui est vivante et qui bouge. Vous posez une question qui est, à mon sens, tout à fait essentielle, qui est la place des musiques actuelles dans la cité. C'est un débat de fond, c'est un débat national, hein, et c'est un débat local. On a choisi, nous, d'avoir une réponse graduée sur cette question-là. Vous avez bien sûr la MJC Prévert, donc avec son lieu de répétition, qui a dû être restructuré, qui a posé des problèmes au niveau du personnel à pérenniser. Ce sont des choses réglées aujourd'hui.
Il y a un petit peu moins de personnel qu'avant.
Il y a un peu moins de personnel qu'avant, mais il coûte beaucoup plus cher, parce qu'il y a eu là aussi la fin des contrats aidés. Donc la mairie est venue à la rescousse et a mis du personnel à disposition et a permis en plus de pérenniser un des anciens postes qui était occupé. Vous parlez du site Bois de l'Aune. Le site Bois de l'Aune, c'est deux choses. C'est la salle du Bois de l'Aune et c'est à côté ce qu'on appelle le patio du Bois de l'Aune. Sur la salle du Bois de l'Aune, était une salle qui était, disons-le, jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, en déshérence. Elle servait à des actions relativement mineures. Elle a été réaménagée. Elle permet d'accueillir une jauge d'à peu près 450 personnes assises. Elle a été confiée par convention à l'association dite La Fonderie, qui l'anime et qui sort un programme assez sympathique, puisque chaque mois, c'est à peu près 8 à 10 manifestations culturelles, plutôt de bon niveau, plutôt sur les musiques actuelles, plutôt à bas prix, et ouvertes sur un public effectivement très très Pays d'Aix. Donc la salle du Bois de l'Aune a été également transférée à la communauté du Pays d'Aix. prise en charge, gérée en matière de sécurité, d'investissement, etc., par la communauté du Pays d'Aix. Son fonctionnement, par contre, là aussi, avec une aide financière, est confié donc à l'association dite du Café Théâtre de la Fonderie pour y faire des animations culturelles. Allez sur le site, vous verrez, c'est assez édifiant. Il y a pas mal de choses, mais il y a aussi une réflexion sur la citoyenneté, sur la jeunesse, sur la drogue, je dirais, sur l'ensemble des maladies, des MST. On essaye d'associer des messages culturels avec en pré-soirée un certain nombre de débats de société, ma foi, qui commencent à pas trop mal marcher. Sur le site du patio lui-même, vous avez raison. Le site du patio est un site qui a été construit il y a déjà quelques années, qui pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est la conformité du bâtiment. C'est un bâtiment compliqué, c'est un bâtiment sans source d'aération, c'est un bâtiment qui prend l'eau sur quatre points. Et on a dû déménager deux structures qui étaient à l'intérieur, une pépinière d'activité d'entreprise et la mission locale pour l'emploi, que je préside, qui a déménagé quelques centaines de mètres plus loin parce que le travail de mes collaborateurs n'y était plus possible. Bon. C'est un site qui pose question. Moi, je dis, il faut en sortir par le haut. Il faut en sortir par le haut. Et ce site-là est... Il a été conçu pour ça. D'abord, c'est une véritable aubaine pour le quartier, parce que le Jas de Bouffan, quartier ouest de la ville d'Aix, Jas de Bouffan stricto sensu, c'est 20 000 habitants. Quartier ouest de la ville d'Aix, c'est 40 000 habitants. Et c'est là que se font les nouvelles arrivées de population, notamment les jeunes actifs, les jeunes travailleurs, etc. Donc, c'est une population pertinente pour les musiques actuelles. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille sur la reconfiguration de ce site au bénéfice des musiques actuelles. Mais vous y avez dedans, qui fonctionne actuellement, un studio d'enregistrement et de répétition, le siège des associations dont j'ai parlé tout à l'heure, Biomix, Terre Active, etc., qui sont pour nous des opérateurs importants, dans la partie du bâtiment qui ne pose pas problème. Mais effectivement, aujourd'hui, la moitié du bâtiment pose un problème physique de gestion concret.
Il semblerait quand même que la salle du Boileau, même si vous dites qu'il y a une programmation mensuelle assez intéressante, c'est quand même beaucoup du théâtre jeune public, c'est pas tellement des concerts de musique actuelle. Là, il y en a un, il y a Moussu et Hakim ce mois-ci, mais c'est le seul. Mais il semblerait quand même que la gestion du lieu, l'équipement, c'est très très lourd et qu'il y ait un manque, enfin en tout cas un réel souci d'exploitation totale de cette salle en conformité.
Oui, non mais de toute façon, c'est un équipement qui est déjà assez ancien, qui va poser tôt ou tard le problème de sa rénovation, qui est géré par une équipe associative qui est volontaire, mais qui est une équipe associative, dans un contexte où effectivement la question qui est toujours posée, c'est les moyens. C'est les moyens. C'est sûr qu'avec beaucoup plus d'argent, on fait beaucoup plus de choses. Bon, nous aujourd'hui, on a choisi une cote mal taillée peut-être, qui est effectivement d'éviter que cette salle continue à avoir une vie endémique. Donc on a choisi une programmation, on a choisi une volonté culturelle et on a choisi de la confier vraiment aux professionnels aixois que nous avons sur les musiques actuelles, qui sont vraiment les travailleurs de fond de ces questions-là. Jean-Michel Lasserre, Pépito, enfin, ce sont des équipes de grands professionnels qui ont vraiment des capacités de réactivité, d'organisation pour nous tout à fait essentielles. Il fallait les valoriser par un lieu, puisque vous savez qu'ils ont perdu à une autre époque la gestion du lieu qu'ils avaient en centre-ville, de la Fonderie, pour diverses questions. Donc il fallait aussi qu'ils retrouvent un lieu. Donc il y a eu aussi ce pari-là, redonner leur chance à une équipe culturelle de qualité, pour nous qui est une valeur de la ville d'Aix. Et en même temps, c'est vrai, vous avez raison, évoluer vers une progression qualitative.
Le Bois de l'eau ne remplit pas le rôle d'une SMAC ou d'un café musique?
Non, mais c'est évident. Je veux dire, vous connaissez l'équipement. C'est un équipement qui vient de loin, je l'ai déjà dit, avec une équipe qui est très volontaire, mais qui effectivement fait comme elle peut. Hein. Mais honnêtement, je crois qu'il faut être très objectif. Autant je reconnais qu'à un moment, ça peut manquer peut-être d'une ambition plus globale, etc. Mais il ne se passait plus rien dans cette salle. Il n'y avait plus rien. Il y avait des rencontres de quartier, etc., qui peuvent d'ailleurs se faire ailleurs. La salle était surdimensionnée pour beaucoup d'activités. Je dirais, elle redevient quand même un lieu culturel aujourd'hui très fort, avec des concerts de qualité qui ont marqué pendant toute l'année. Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il faut aussi, entre guillemets, meubler la saison. Entre juin et septembre, se passe une grosse partie de la saison musicale. En dehors de cette saison musicale, vous avez d'autres actions. Bon, vous avez les concerts d'Aix, vous avez Aix en musique qui a une programmation à l'année, vous avez l'ensemble des actions du conservatoire qui sont externalisées et qui deviennent des concerts publics gratuits. Vous avez un certain nombre d'associations qu'on a choisi d'aider, qui font de la programmation Alors là aussi, peut-être un peu trop l'été aussi, comme nuit d'été, côté jardin, etc., côté cours, qui sont des associations qui travaillent avec un certain nombre de relations qu'ils ont, mais qui font des concerts, aussi tournés sur le flamenco, la culture internationale et autres. Sur la programmation musicale à l'année, vous avez quand même le théâtre du Jeu de Pomme aussi, vous avez des concerts de prestige, mais et vous l'avez bien analysé, je pense, hein, d'où votre question du début, bah, il manquait la salle de spectacle. Vous avez également le Pasino. Moi, je ne suis pas de ceux qui vous diront, oui, mais je ne suis pas de ceux qui vous diront que le Pasino d'Aix est un lieu qui doit être décrié sur le plan culturel. Il y a à peu près 4 à 5 gros spectacles par mois, des humoristes. Il y a aussi le Festival de la chanson française d'Aix qui s'y produit, avec quand même des pointures qui y viennent. Moustaki, cette année, qui a fait son grand concert. Bon, je veux dire, le Pasino fait partie de la plateforme culturelle.
Les gens dans Aix n'ont plus de lieu, il n'y a plus la diversité de lieux qu'il y avait il y a encore 7 ans.
Yann de Biomix.
C'est-à-dire que maintenant, tu vas le soir pour aller boire un verre, tu as le choix entre une brasserie, enfin entre les brasseries classiques et un bar de nuit, voire deux bars de nuit, et tout est complètement aseptisé. Tu peux pas faire de bruit à Aix-en-Provence. Si tu fais le moindre bruit, on t'envoie la police immédiatement. T'as pas le droit d'acheter d'alcool dans les épiceries après 10h du soir. Il y a plus ces lieux, ces petits lieux dans lesquels on organisait des soirées qui étaient un peu roots, mais justement qui permettaient à des gens beaucoup plus jeunes de créer des choses. Bah, là, ces lieux-là, ils n'existent plus vraiment. Donc, même eux, moi, je le vois, puisque je fais beaucoup de choses à Marseille. Et je suis pas mal contacté par des gens d'Aix qui sont plus jeunes, qui ont à peu près qui ont entre 20 et 23 ans, qui veulent organiser des choses et qui ont essayé à Aix et qui voient qu'à Aix, ils ont vraiment des problèmes pour le faire. Et ils nous contactent, nous, pour nous demander si à Marseille, on connaît des lieux et si on peut les aider plutôt à Marseille, parce qu'ils sentent bien qu'à Aix, c'est complètement étouffé.
Pour le quotidien, dans les musiques actuelles, apparemment, il y a une volonté de retailler ça vers les musiques actuelles, mais je pense que ça va atterrir de toute façon sur la même chose que le Pasino bis, quoi. Un Pasino bis, c'est-à-dire des grosses productions.
Les Pitot de l'association La Fonderie.
Donc là-dedans, ce qui est absolument oublié, c'est un, le quotidien, deux, les gens qui n'ont pas de pognon, qui s'en foutent d'avoir un parking gardé d'ailleurs, et jouer au casino et tout ça. Et trois, la scène alternative, la scène en développement, etc. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, on est tous en train de se... Là, il y a Anaïs qui passe au Pasino, là, prochainement. Là. Tout le monde se gaufre avec Anaïs ces temps-ci. Mais attends, Anaïs, il ne faut pas oublier un truc. C'est qu'elle jouait dans des bars comme elle pouvait, comme tous les musiciens, qu'elle a eu un petit début de quelque chose avec le groupe Opossum, et puis qu'il y a la vie d'un groupe de musique, surtout quand il démarre, c'est souvent de splitter, donc le groupe a splitté, elle a remonté son truc, pendant un an et demi, elle a été hébergée à La Fonderie, on s'est occupé d'elle au niveau des contrats, on s'est occupé du développement, on l'a présentée au Printemps de Bourges, enfin il y a un travail quotidien qui s'est fait, et c'est ça qui lui a permis de décoller. Donc si on oublie les lieux qui font du développement artistique...
Ce que vous avez fait aussi avec Pumchak, hein.
Ce qu'on a fait avec Pumchak, ce qu'on fait un peu avec Rit, enfin ce qu'on fait régulièrement avec Rit depuis des années, ce qu'on fait avec d'autres artistes, bon, qui est une partie de notre travail, mais je veux dire, le fondamental, c'est que les lieux du quotidien, c'est des lieux qui permettent de développer la scène. veux dire, Benabar, machin truc, tout le monde pareil, se gaufre et tout, il passe à la télé, c'est fantastique et tout. C'est pas un groupe qui a commencé à Star Academy, c'est pas non plus un groupe qui a commencé aux Victoires de la Musique. Donc c'est des groupes de scène. Là, on fait Moussa Hakim le 3. Moi, Moussa Hakim, je les ai connus en 88 avec le début de Zebda. Ils venaient en 4L faire le Tour de France, comme tous les groupes, quoi. Je veux dire, maintenant, ils ont un bus tour, un machin, un truc, ils ont vendu, tombé la chemise, etc., etc., quoi, je veux dire. Mais la réalité, c'est que maintenant qu'il n'y a plus Zebda, Moussa Hakim, Majid Cherfi, ces gens-là qui sont vraiment des phares, on va dire, dans la musique, qu'on les aime ou pas, je veux dire, à l'heure actuelle, professionnellement, c'est des références, quoi. Ils retournent aux salles alternatives et aux salles du quotidien. Voilà, c'est pas le Pasino qui va produire Moussa Hakim au jour d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, demain, si Moussa Hakim, ils font 300 000 albums, ah ben là, le Pasino, il dira, venez chez moi, quoi.
En 2002, le café musique ferme pour raison de travaux. L'équipe de la fonderie est transférée alors à la salle du Bois de l'Aune. La ville rachète le 14 cours Saint-Louis, l'ancienne adresse du café musique, puis transfère le bébé à la communauté du Pays d'Aix. Depuis 2002, donc, Pépito et Jean-Michel, et l'équipe bien sûr de la fonderie, tentent de remettre sur pied une salle inadaptée, lourde en fonctionnement, au milieu d'un quartier où personne ne veut aller. Dans le même temps, la MJC Prévert et l'espace musique actuel, unique lieu de répétition pour les groupes se développant dans la ville, voient le nombre de ses salariés se réduire de 3 à 2. Les emplois aidés étant arrivés à terme, ils ne pouvaient assurer une continuité des emplois. L'espace de répétition réduit donc logiquement ses capacités d'accueil de groupes. Sur 120 groupes qui répétaient dans ce lieu, aujourd'hui seule une soixantaine profitent de ces deux studios de répétition. Exki, quant à eux, développe le réseau, la relation à l'Europe et diversifie ainsi les sources de financement. Les trois structures sont donc montées au créneau, frappées à la porte des institutions, tirer la sonnette d'alarme. André Molex de la MJC Prévert.
On a eu l'impression, nous, quand on est allé mener toutes ces discussions avec nos partenaires de la ville, qu'ils ne connaissaient pas du tout le dossier. C'est un truc qu'ils voyaient ça de très loin, à travers le filtre de moult fonctionnaires et autres directeurs de services qui, ma foi, ne laissaient pas passer grand-chose. Et je crois quand même que... Il y a eu une certaine prise de conscience du type ces associations-là ne sont pas des associations qui travaillent pour elles en cercle fermé, etc. Ils sont quand même aperçus qu'on avait un véritable rôle d'animation auprès de la jeunesse. Et de ce point de vue-là, et que ça touchait quand même pas mal de monde. Hein, si on réunit un peu les activités d'Exki, la fonderie, l'espace musique, etc. On est chacun sur des actions différentes. Hein. Bon, les uns, c'est Class Rock, c'est les rencontres, c'est des choses comme ça. Bon, nous, c'est plutôt la répétition, le lieu où ça mijote avant de pouvoir aller sur scène. Bon, la fonderie, c'est de la diffusion culturelle. Tout ça, ça concerne véritablement beaucoup de jeunesse aixoise. D'autant plus qu'avec tous les étudiants qu'il y a ici, il y a évidemment un vivier très, très important, quoi.
Et pourtant, des groupes ont émergé depuis Aix.
Oui, bien sûr, il y a des groupes qui ont commencé ici, qui tournent maintenant, qui ont fait des CD, qui avancent avec toutes les difficultés liées à ce genre de métier. Oui. on sait ce que s'envoient les intermittents du spectacle ou des gens comme ça, quoi. Donc, on sait bien que tout ça, c'est dans la plus grande et la plus totale des précarités. Mais il y a quand même certains jeunes. Notre objectif à nous, c'est pas spécialement d'envoyer les gens sur scène et faire des carrières. Hein. C'est d'abord qu'ils se forment, qu'ils se rencontrent. On a aussi un rôle assez, je dirais, civique, civilisateur, quoi. Hein. pas mal de jeunes qui effectivement ici acquièrent aussi un certain nombre de règles pour vivre en collectivité, on dit bonjour, on dit au revoir, on dit est-ce qu'il y a de la place, est-ce qu'il n'y en a pas, on n'est pas en force, on est dans du rapport, c'est pour certains d'entre eux c'est quelquefois un apprentissage, hein, donc de ce point de vue là nous on pense qu'il y a tout à fait une utilité sociale, hein. Et puis sur le plan culturel il y a des choses, il y a des produits qui sont intéressants qui sortent, hein, également, quoi. Voilà.
Si on a pu croire à un moment donné qu'on était sur des secteurs qui étaient en développement et qui allaient quelque part
de l'association La Fonderie
hériter leur développement de la volonté publique, moi, ce n'est pas la réalité dans laquelle je baigne depuis 89. On est dans une réalité de secteurs qui ne sont pas pris en compte d'une manière globale ou d'une manière concrète par les autorités publiques. Et donc, on est dans des secteurs qui restent, on va dire, alternatifs et qui doivent défendre leur existence. De même manière que les intermittents, s'ils n'avaient pas bloqué les festivals il y a 3 ans, ils ne seraient pas bougés. D'ailleurs, ils ont bloqué les festivals et c'est parti en pire. Mais ce n'est pas leur faute à eux. Au moins, ils ont essayé de se battre là-dessus. Mais tu te retrouves avec une surdité des pouvoirs et des institutions à ce niveau-là. Donc, si le Conseil général, par exemple, est satisfait parce qu'il y a la Fiesta des Suds, si le Conseil régional est satisfait parce qu'il fait ses rencontres musicales actuelles, etc., etc., et que chacun se tire la bourre, entre guillemets, sur leurs manifestations phares aux uns et aux autres, pour moi et pour nous, pour le collectif dont je parlais tout à l'heure, pour des gens comme nous, c'est un dévoiement de l'institution publique. Pourquoi ? Parce que les politiques publiques, en termes culturels, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans le reste des choses, elles découlent d'une simple volonté originelle, qui est celle de consacrer une partie des ressources nationales à des secteurs qui intéressent la majeure partie de la population ou des populations larges, et indépendamment de la viabilité en termes de bénéfices économiques que procurent ces secteurs. Qu'est-ce que le travail de la salle du Bois d'Olonne ou de la fonderie à la salle du Bois d'Olonne procure comme rentabilité économique, par exemple sur les scènes hip-hop qu'on développe doucement, sur les groupes hip-hop qu'on développe stricto sensu, zéro. Par contre, quel est l'intérêt du développement de ce travail-là pour la ville d'Aix, pour le paysage, pour les jeunes, pour etc. Là, on peut discuter pendant des heures, justement. Et c'est justement pour ça que les institutions ont normalement la mission d'aider ce type de dynamique, ce type de secteur, etc. Que ce soit la fonderie, que ce soit les autres acteurs, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est ça qui a été doucement oublié par les institutions. Je veux dire, tu peux faire tous les observatoires que tu veux, tu peux t'acheter toutes les poupées plaquées or que tu veux. Je veux dire, en attendant, sur le terrain, la réalité, elle est plus large que ça. Elle est plus large que ça. Donc, si au jour d'aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est la dynamique, la salle du Bois d'Olonne, si au jour d'aujourd'hui, la communauté du Pays d'Aix et la ville d'Aix-en-Provence, sur un équipement public construit par l'argent public, demande à la fonderie de venir faire un travail, et que ce travail est crédible, et que ce travail est porteur, à ce moment-là, normalement, il devrait y avoir toutes les institutions autour, comme ça a été le cas pour accoucher du Centre chorégraphique national, comme ça a été le cas pour accoucher la Grande Salle du Pays d'Aix, comme c'est le cas pour le Festival d'Art Lyrique, comme c'est le cas pour 50 000 manifestations qui, elles, tombent dans un cadre qui est perçu par les politiques comme normal. Or, les musiques actuelles, au jour d'aujourd'hui, or tout ce que tu disais, les étudiants, etc., etc., c'est très bien les étudiants qu'ils aillent boire des coups au bar de machin truc, écouter des musiciens payés au noir dans des arrières-salles, c'est très bien, ils ne nous emmerdent pas plus la vie que ça, quoi, je veux dire, de toute façon, ils ne votent pas ici, ils sont jeunes, on s'en fout, etc., etc., quoi. Donc voilà, sauf que pour nous, encore une fois, c'est un dévoiement. Pourquoi ? Parce que quand le système dans lequel on vit, qui est en train de crever doucement, s'est développé, c'était sur 3 items fondamentaux, c'était culture, éducation et santé pour les gens. Si pour les pouvoirs publics on pouvait remplir les besoins des gens sur ces 3 points-là, déjà on est éloigné, ne serait-ce que le fascisme, les guerres mondiales, etc., d'où sortait le monde à ce moment-là. Ça, on l'a oublié. Ça, on l'a oublié. Donc après, tu peux te gosser que Le Pen, que machin, que truc, que bidule, etc., même si ça n'a pas de lien direct avec le secteur musique actuel. Par contre, ça a un lien direct avec le dévoiement de tout un tas de choses dans la société à l'heure actuelle, dans le système dans lequel on vit, qu'on le critique ou pas, qui doucement dérive, et laisse les gens perdus chacun dans leur coin, quoi, sans espace de rencontre, sans espace de partage, et ils finissent par devenir cons.
Moi, c'est un peu ça qui me perturbe.
Patrick Daragi, de Ex-Q.
La cohérence de la non-prise en compte des problèmes de la jeunesse au travers de la culture, de l'éducation, de la santé. Enfin, bon, on pourrait parler de l'hôpital psychiatrique, puisque souvent, on travaille aussi avec des gens là-bas, etc. Et on sait que c'est quand même vachement délicat pour eux, etc. Enfin, bon, bref, il y a l'actualité sur les prisons, on nous en parle aussi. Bref, tout ce qui tient au traitement de la jeunesse, c'est toujours traité soit en pompier pour éteindre le feu quand il y a une bagnole qui crame, soit on n'en a rien à foutre. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après on soit un peu en décalage par rapport à ces politiques-là. Nous, qu'est-ce que ça serait notre rôle en fait? Ça serait d'alerter le plus possible les élus sur le fait que, d'accord, vous avez une délégation culture, d'accord, vous avez une délégation éducation, d'accord, vous avez une délégation jeunesse, mais si par hasard, à un moment donné, vous pouviez faire de l'interdélégation pour réfléchir à cette thématique un peu dans le sens transversal, peut-être que ça ferait avancer les trucs. Enfin, pour te donner un ordre d'idée, ça fait donc 17 ans qu'on fait ClassRock. Depuis l'année dernière, depuis 2 ans, on travaille avec le rectorat. Depuis 2 ans, le rectorat a consenti. Alors, je ne saurais même pas te t'expliquer pourquoi. Hein, pourquoi on a réussi à travailler avec eux. Mais d'un coup, ils ont bien voulu travailler avec nous, alors que les directeurs d'école, ils se font prendre à coups de cutter, et que nous, les gamins qui sont dans ces établissements, on a une passerelle formidable pour être en contact avec eux, même c'est la musique, et que toute l'année on travaille avec des gamins qui fréquentent ces bahuts-là et sur un truc qui les fait bander. Donc je veux dire, il y a un donnant-donnant là qui peut s'installer. Les mecs, ils sont payés, ils n'ont même pas pensé que ça pouvait être un accélérateur de notre rôle associatif. C'est aussi à un moment donné de monter au créneau et d'interpeller les élus. Pourquoi le maire? Parce que c'est le premier. Mais on a aussi interpellé la DRAC, le département, la région et le ministère au travers de notre entrevue avec Donne-Dieu de Vabre, qui voulait encore nous fourguer ses projets à l'appel et à qui on a juste demandé un petit rééquilibrage, comme je te disais tout à l'heure, entre le Festival d'Art Lyrique et ses sommes mirobolantes et les actions toute l'année pour les gens du CRU. Il faudrait qu'il y ait quand même un semblant de cohésion. Moi, je vais te dire, ce qui me tracasse, c'est simplement qu'on a l'impression que les élus, ils sont complètement détachés du terrain. Alors ça, évidemment, c'est à 90% c'est le cas. Il y en a 10% quand même qui ont les mains dans le cambouis, ça fait plaisir. Mais surtout, ils sont complètement largués, quoi. Parce que c'est pas possible d'arriver sur une topologie aixoise en se disant, voilà, alors j'ai mon festival d'art lyrique, dans le Pays d'Aix, j'ai mon festival de piano international, bon, tout va bien, Chicoréa, il peut passer. J'ai mon Baron Noir qui se lève, tout ça, quand le plafond ne tombe pas, tout se passe bien. J'ai mon opéra qui arrive. Et puis j'ai fait le tour. Ah, j'ai le Pasino aussi quand même, parce que lui, il fait ses concerts variété, tout ça. Je veux dire, pour qu'il n'y ait pas un élu qui dise « Halte là, les gars, je crois qu'on fait un petit peu erreur et qu'on a oublié l'électorat. » Quand même, Maryse Joissin était élu aussi sur une notion de proximité populaire, etc., qui était vachement forte. C'est quoi la proximité? C'est le Pasino? Non, mais j'aimerais qu'on m'explique. Alors, donc, nous, toutes ces questions, on les pose. Évidemment, on n'a pas de réponse. On n'a pas vraiment de réponse, parce que si nous sauver à nous une année sur deux, c'est une réponse, je pense qu'ils sont carrément à côté de la plaque. Et moi, ce qui m'intrigue, et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en dehors de cet aspect purement politique et approche des élections ici, c'est la même chose à tous les niveaux. Au niveau ministériel, je t'en parle même pas, d'accord ? Région, c'est quand même vachement timide en ce qui nous concerne, et en tout cas en ce qui concerne les autres personnes, enfin la fonderie et l'EMA en l'occurrence, mais aussi toutes les autres actions en voie de structuration qu'on rencontre sur le terrain. Avant d'être reconnu par les uns par les autres, comme m'a dit un mec de la région un jour, il m'a dit il y a quelques années, ben maintenant c'est bien, on va pouvoir monter en puissance. J'ai dit mais nous, t'as plus besoin de t'occuper de nous, c'est bon, on a survécu, maintenant c'est les autres qu'il faut que tu aides, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a toujours, c'est pas un wagon de retard là, c'est carrément un ou deux trains, quoi.
Quand vous parlez de public en développement, c'est vrai que, bon, évidemment, c'est juste. En même temps, moi, je m'interroge sur le public art lyrique en développement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un public art lyrique qui se développe à tel point pour mettre 50 millions dans une grosse structure. Voilà, moi, c'est un peu la question, et je ne suis pas la seule à me la poser, évidemment.
Stéphane Salore, délégué à la culture de la ville d'Aix-en-Provence.
Oui, vous posez une vraie question, qui est l'affectation des besoins, mais aussi le fait qu'à un moment, on a fait des études précises sur ce sujet, il faut un saut qualitatif. On est un peu obligé d'avoir un saut qualitatif. Il manquait d'une salle de spectacle à Aix depuis longtemps. Vous savez, elle était prévue, cette salle, en 1987, elle était prévue sur la caserne de Forbin. Au lieu de ça, on y a fait un petit palais des congrès avec 400 places seulement, et puis à côté, un ensemble de bureaux et un ensemble tertiaire très beau d'ailleurs, mais qui a amputé les capacités de la salle de spectacle. Donc le Mistigris a été reporté dans le temps. Aujourd'hui, dans la phase de terminaison du quartier Sextius Mirabeau, qui est vraiment maintenant l'entrée de ville très officielle d'Aix-en-Provence, la Cité du Livre, le CCN, et à côté, il y aura la salle de spectacle. Ça, c'est un pôle culturel qui a du sens. D'abord parce que ces trois lieux vont communiquer ensemble. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura des synergies quantitatives et qualitatives tout à fait extraordinaires. On les voit depuis une semaine entre la Cité du Livre et le Centre de chorégraphie, sur le passage du public. On crée des nouveaux lieux publics à Aix par l'interaction, justement, et la transformation du pont de chemin de fer qui permet d'avoir des espaces libres pour le public très, très importants en dessous. Sur la salle de spectacle, vous allez avoir d'abord un ensemble architectural de qualité qui va réaliser une véritable entrée de ville. Deuxièmement, vous avez un projet qui est cher, comme le sont les projets de cette nature-là. Ce sont des projets chers. Mais ce sont des projets qu'il faut projeter, on va dire, dans le moyen et long terme pour en comprendre la pertinence. Avec une jauge à 1400 et quelques places, la salle de spectacle du Pays d'Aix va être un équipement intermédiaire mais important. Moins important que le Dôme à Marseille, moins important que le Quorum à Montpellier, mais qui va permettre quand même une expression artistique toute l'année. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'accueil à 1400 sur la communauté du Pays d'Aix.
Oui, mais la salle n'est pas équipée pour les musiques amplifiées.
Alors la salle, d'abord, a une acoustique propre qui va être très forte. Donc je dirais, elle va pouvoir permettre quand même un certain nombre de choses. Elle va pouvoir permettre de rajouter aussi de l'amplification. Quant à l'art lyrique, ça va être que 8 semaines dans l'année. C'est 8 semaines. Bon. C'est juin pour la préparation, juillet pour les spectacles. Une activité à l'année, bien sûr, de gestion, de fabrication de décors, etc. Mais, je dirais, une partie seulement. Ensuite, à nous, à inventer, et c'est là que vous avez raison, il y a un défi à réaliser encore. Moi, je suis d'accord avec vous. On est encore dans l'espace du défi. À trouver le délégataire, puisque nous allons donner cette salle en gestion à un concessionnaire, c'est la loi qui l'impose, de passer par un appel d'offres qui va être européen pour chercher le bon gestionnaire. Et ce bon gestionnaire, il va avoir trois obligations. La première obligation, c'est de faire marcher cet équipement à l'année. La deuxième obligation, c'est de l'ouvrir sur le plus d'actions culturelles possibles. Et troisièmement, vous vous en doutez, c'est l'objectif financier, c'est que cette salle atteigne le plus près possible, même si on sait que c'est difficile pour ce genre d'équipement, mais atteigne le plus près possible des équilibres et des fondamentaux financiers. Donc moi, je suis d'accord avec vous, on est dans l'espace du défi aujourd'hui, mais à un moment, je crois que l'important dans la décision politique, c'est de dire, bon, mais il faut avancer. Je vais vous dire, si on n'avait pas pris cette décision il y a 3 ans, de créer cette salle de spectacle, il est très très clair qu'à la place de l'endroit où elle va être, où elle est plutôt, puisqu'elle est en train de se terminer, elle sera livrée dans quelques semaines maintenant, vous auriez eu quoi ? Un autre immeuble ? Ou un parking ? Ou une pelouse ? Toutes choses tout à fait intéressantes. Mais la salle de spectacle, à cet endroit-là, stratégique, elle n'aurait plus jamais existé. Elle aurait été reportée une troisième fois à l'extérieur, ailleurs, on ne sait où, à un moment où on sait qu'effectivement ce genre de décision politique se prend en milieu de mandat, quand on est tranquille, quand on peut réfléchir à fond sur les dossiers, et pas en période électorale ni en période politique. Donc cette décision a été prise il y a 2 ans et demi de faire cette salle. Aujourd'hui, moi je crois qu'il faut l'assumer comme un bien culturel, mais moi je vous redis bien que dans le contexte, si on n'avait pas pris cette opportunité à ce moment-là, on aurait peut-être pris le risque de ne jamais avoir de salle de spectacle en Pays d'Aix. Donc il faudra l'assumer. Mais vous avez raison, lourdeur financière, lourdeur en fonctionnement aussi. Un fonctionnement d'une salle à 50 millions, c'est 15 points de son coût de fabrication en fonctionnement. Donc c'est 6, 7, 8 millions peut-être d'euros par an. Il va falloir inventer maintenant le fonctionnement, la programmation, les équilibres financiers qui vont avec. Je ne vous cache pas qu'on y travaille et qu'une équipe travaille quasiment que sur ça au niveau de la communauté du Pays d'Aix, hein, autour de la direction générale qui s'occupe de cette question-là. Mais je pense quand même, vu l'attractivité touristique de la ville, vu sa force emblématique, vu le tour de force de l'année Cézanne et de ce qui se prépare dans les années qui viennent, tous ces éléments-là vont être interactifs. Patrimoine centre-ville, art lyrique, musée Granet, CCN, salle de spectacle, une circulation maîtrisée avec des parkings qui permettent de grandes capacités d'accueil non loin de ces structures-là, et on connaît l'importance du parking, heureusement ou malheureusement, dans une stratégie d'absorption de public important à des heures de pointe. Tous ces aimants-là, il faut bien vous dire qu'ils vont se mettre en synergie à un moment. Et on a vu les gens venir au musée Granet, aller visiter le reste du centre-ville, alors qu'ils ne venaient que pour le musée Granet.
façon, si on réouvre demain la fonderie, on n'aura pas résolu le problème non plus, ou la thématique non plus, ou comme on veut l'appeler. À l'heure actuelle, ce qu'il s'agit, c'est d'accompagner un secteur. Alors, effectivement, sur une ville qui a 50% de sa population, qui est soit étudiante, soit qui a moins de 30 ans, quoi. Donc, ce qui est quand même une variable importante, hein, que je veux dire, que ça soit des fils de Toubib qui descendent à la fac en Volkswagen décapotable, ou que ça soit des minots de chômeurs de longue durée qui vont à la fac en bus quand ils peuvent, quoi. Je veux dire, de toute façon, tout ça, c'est une population qui demande à avoir des lieux de rencontre, des espaces d'expression, se trouver face à des scènes, etc. Et il serait noble pour les politiques de répondre à leurs attentes.
Et surtout, un peu de... peut-être une... Nous, c'est un peu l'idée qu'on veut développer, c'est-à-dire que les élus travaillent plus ensemble, parce qu'on est obligé d'en venir là, quoi. À Aix, les élus jeunesse ne travaillent pas avec l'élu culture. Ou les élus culture, c'est pas normal. Bon. Et puis, il reste quand même ce problème de grosse jauge. Alors, il y a le carré de béton qu'on veut nous refiler depuis des années, dont personne ne veut, tu m'étonnes, c'est la préhistoire en matière de transport, hein, si on veut aller au stadium. Hein. Et puis surtout, on a parlé de démocratie directe pendant les élections, ça serait bien de mettre ça en application. On met tous les gens autour de la table, on discute, on choisit ensemble, les élus sont là pour arbitrer, parce que la démocratie, ça ne veut pas dire je te file le droit de faire ce que tu veux, ça veut dire je te donne la possibilité de gérer l'action pour le bien-être des gens. Mais ça ne veut pas dire non plus que les autres sont là à attendre que ça se passe. Ils peuvent se réveiller et être force de proposition. Voilà.
Merci. Je t'en prie. Ouais. Alors même si tu as déménagé aujourd'hui à Marseille, est-ce que tu as quand même encore un lieu que tu affectionnes particulièrement à Aix et dans lequel tu continues à aller? Alors un bar ou voilà, si tu as un lieu à...
Bah, malheureusement, non. Malheureusement, non. Le seul endroit où, même avec Biomix, on a organisé beaucoup de choses, je ne le citerai pas parce que je n'ai même pas envie de leur faire de la promo maintenant, quoi. Et même des lieux comme ça où on a pu organiser plein de soirées, des choses différentes, où on a fait venir des artistes complètement différents et tout, te répondent ouais, on peut, on vous laisse le mardi soir parce que nous, non, maintenant, c'est ultra commercial, on ne veut pas faire d'efforts. Ils le disent eux-mêmes, ils disent ouais non, on préfère musicalement, vous savez, on met de la merde, on s'en fout, quoi. C'est, ils tiendraient une épicerie, ça serait pareil. Ils n'essaient pas du tout de faire, de prendre leur lieu comme un lieu de vie dans lequel ils pourraient faire en sorte que au moins des gens plus jeunes viennent organiser des choses différentes, qu'il y ait du lien qui se crée, et puis qu'une scène, parce que bon, une scène pour que, dans une ville, pour que ça émerge, il faut qu'il y ait au moins des lieux qui accueillent ces gens-là et qui les accompagnent, qui les laissent expérimenter des choses, qui les laissent se planter, mais qui les aident aussi à réussir et puis à se rencontrer. Et bon, et après, ça crée une émulation et au bout de 2-3 ans, bah, ça crée une scène. Là, à Aix, malheureusement, il ne se passera rien parce qu'on en est à un niveau tellement bas d'organisation dans la ville. Les gens ne peuvent rien faire. Il y a juste les clubs, les brasseries et un ou deux bars de nuit qui sont des épiceries, quoi, où on vend juste de la bière et puis basta, quoi. On n'essaie rien d'autre.
Espérons que le pessimisme de Yann du collectif Biomix se temporise. Alors à quand une bonne petite salle sympa pour écouter ou jouer de la musique à Aix? Grenouille cherche Aix, ça continue jusqu'au 6 novembre, à l'antenne avec notamment le 6, la question des arts plastiques, et demain, celle du livre. Les émissions sont à 18h. Sinon, vous pouvez bien sûr consulter notre site www.grenouille888.org pour réécouter les émissions. Ce dossier aixois a été concocté en collaboration avec le mensuel Le Ravi. Dans le numéro de ce mois-ci, un large dossier est donc consacré à la ville d'Aix-en-Provence. À bientôt sur le 3-8.